marche du monde.
Capitaine Raymond, commandant le détachement des tirailleurs rapatriés.
Avez-vous fait bon voyage?
Oui, oui, très bon.
Quelle allure, vos tirailleurs? Oui.
Ils ont fière allure, les tirailleurs africains, lorsqu'ils débarquent au port de Dakar en novembre 1944. Et pour cause, ils ont participé à la libération de la France. Ils sont les premiers à être enfin rapatriés pour être démobilisés.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Les tirailleurs africains arrivent au Sénégal pour rejoindre le camp militaire de Thiaroye. C'est là qu'ils doivent transiter avant de retrouver leur village. Ils sont sénégalais, mais aussi maliens, nigériens, voltaïques ou encore ivoiriens, et ils vont devoir réclamer leur solde. Mais ils ne sont pas entendus, et en quelques jours, tout bascule, jusqu'à ce 1er décembre 1944, où l'armée coloniale française envoie la mitrailleuse pour faire taire la révolte des tirailleurs. Environ 1500 hommes sont arrivés sains et saufs à Thiaroye, mais combien sont morts? Tous les historiens ayant travaillé sur le massacre de Thiaroye sont d'accord pour remettre en question le chiffre officiel des 35 morts. Ils sont donc beaucoup plus, peut-être des centaines à avoir été massacrés. La marche du monde est à Dakar, à la recherche de leur mémoire. Un reportage signé par notre correspondante Binta Diagne.
Détachement des tirailleurs rapatriés, effectif complet. Sergent-chef Diatta, à vos ordres, mon capitaine.
À mon commandement. Repos.
Ces soldats, donc, rentrent au pays auréolés de la gloire d'avoir participé aux côtés des autres forces combattantes à la libération du monde contre le nazisme, qui a été un régime particulièrement abject et violent. Donc, il est évident que ces soldats rentrent au pays avec à l'esprit qu'ils ne pouvaient plus subir les humiliations, qu'ils ne pouvaient plus subir la violence d'une administration coloniale et qu'ils ne pouvaient plus accepter ce qui était avant la guerre.
Ibrahim Atioub est historien et recteur de l'université Cheikh Diop de Dakar.
L'Afrique a, dès le départ de la guerre, avant même la défaite de 1940, les troupes africaines, en particulier les tirailleurs sénégalais, ont participé à la guerre et ont payé un lourd tribut, disons, au moment de la défaite. Il y en a un grand nombre qui ont été tués, d'autres faits prisonniers et maintenus dans les camps au niveau de la France occupée. Et lorsque les troupes alliées vont à la reconquête du territoire français avec la résistance conduite par De Gaulle compte énormément sur l'armée d'Afrique pour marquer la présence de la France. Et on l'oublie très souvent parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur le débarquement de Normandie en oubliant le débarquement de Provence. Et ce sont les troupes majoritairement composées de tirailleurs africains qui débarquent en Provence et libèrent Toulon. Et ce débarquement a été très souvent oublié. Dès ce moment commence un travail de ce que je pourrais appeler une démémorialisation, c'est-à-dire effacer un peu la contribution importante des soldats africains à la libération de la France. Je signalerai par ailleurs que Toulon, qui a été libérée par les Africains, a été la première ville qui a élu un maire Front National en France. Donc il y a là des enjeux de mémoire extrêmement importants qui expliquent un peu cet effacement du débarquement de Provence. À l'issue donc de cette reconquête et de la libération de la France, les soldats africains qui ont survécu à la guerre et qui ont participé au combat pour la liberté, ceux qui ont été faits prisonniers à la défaite de 1940, maintenus sur le sol français mais dans les Frontstaats, sont libérés et rapatriés. Et ici, il faut signaler qu'ils ont été très vite rapatriés, qu'ils ont été très vite démobilisés.
Détachement de tirailleurs rapatriés, effectif complet, à vos ordres, mon commandant.
Ces tirailleurs-là, pour les autorités militaires françaises, il faut les rapatrier. On va les embarquer pour venir à Dakar.
L'historien Cheikh Fatih Faye, grand spécialiste du massacre des tirailleurs de Thiaroye, rappelle que dès leur regroupement sur le sol français, les soldats africains ont des revendications.
Toute la période pendant laquelle ils étaient prisonniers des Allemands, ils ont considéré qu'ils ont droit à un certain nombre d'avantages, d'avantages que l'armée française doit leur verser. D'abord les soldes, les primes, etc., etc. Voilà pourquoi, déjà, depuis le camp militaire de Morlaix, il y a eu des concertations entre eux pour pouvoir parler aux autorités militaires françaises et dans l'optique, évidemment, de savoir quelle est la situation qui va être la leur. De façon générale, les réponses qu'ils ont eues n'ont pas été des réponses satisfaisantes. Parce que les autorités françaises ont considéré que l'armée française est encore en guerre. Nous sommes en 1944, donc la guerre n'est pas terminée. Et donc, ces tirailleurs constituent un élément très secondaire.
Mon casier militaire, mon casier militaire, moi pas besoin d'alors, joutez-moi du lit. Mon casier militaire, mon casier militaire, moi pas besoin d'alors, joutez-moi du lit.
Et pendant une semaine, ils vont se retrouver dans ce camp, le camp militaire de Tiaroy. Et c'est là où, de manière générale, ils vont comprendre que les revendications déjà exprimées à Morlaix et sur lesquelles ils n'ont pas eu d'informations très précises, pendant la semaine qu'ils font à Dakar, ils se contactent, ils parlent aux autorités militaires qui sont dans le camp pour savoir sur quelle base ils vont être renvoyés dans leur village ou dans leur ville d'origine. Et donc l'atmosphère se dégrade pendant la semaine qu'il passe ici, du 24 novembre au 1er décembre.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Nous sommes à la gare aujourd'hui désaffectée de Dakar, là où le réalisateur Ousmane Samben a mis en scène l'arrivée des tirailleurs africains fraîchement débarqués du Circassia. Écoutez Éloi Colli, aujourd'hui conservateur de la maison des esclaves de Gorée.
Le bateau arrive, le port c'est juste à côté de la gare. Les tirailleurs sortent du port et passent devant la gare. C'était toute une symbolique. Pourquoi ? Parce que la gare, c'était le cordon ombilical entre, évidemment, le Sénégal, le port et tous les autres pays. Lorsque l'on parle de tirailleurs sénégalais, ils n'étaient pas uniquement des Sénégalais. Il y avait des Maliens, il y avait donc des Voltaïques, il y avait des Gabonais, il y avait des Camerounais, donc ils étaient de toute l'Afrique. Et évidemment, ce lien ombilical donc partait forcément de cette gare. Et parce que pour, disons, lorsqu'ils, après la démobilisation, normalement ceux qui devaient aller au Mali n'avaient d'autres ressources que, évidemment, que d'emprunter le train pour aller, pour allier le Mali, de même que pour les autres. Et c'est toute cette symbolique que, sans doute, Samben a voulu, et Karno Fatisson ont voulu faire ressortir en leur faisant passer, les tirailleurs devant cette gare-là. C'était quelque chose qu'il fallait voir. Toute une vie, donc, autour de cette gare. Aujourd'hui, évidemment, tout a disparu.
Éloi Colli est dans le film de Samben Ousmane intitulé « Camp de Tiaroy », un film qui a marqué la mémoire collective, un film sorti en 1988.
Oui, j'ai été choisi par Ousmane Samben et Karno Fatisson, qui avaient été donc les réalisateurs du film « Camp de Tiaroy » pour jouer le rôle de caporal-chef cuisinier.
Hé, chef!
C'est quoi, même?
Ça, c'est masé de quoi?
Ça, c'est ordinaire tirailleur.
L'ordinaire, les tirailleurs, c'était différent selon qu'on était, évidemment, citoyen français ou sujet. Je veux parler des Maliens ou de ceux qui, même étant sénégalais, donc, étaient nés, non pas dans les quatre communes qui étaient constituées essentiellement par Dakar, Rufisque, Saint-Louis et Gorée. Ceux-là, c'était des citoyens à part entière qui avaient donc des avantages liés à la citoyenneté française. Alors que tous les autres étaient considérés comme des, disons, citoyens de seconde zone parce qu'ils n'étaient même pas assimilés aux citoyens français.
Moi, simple chef cuisinier, moi, pas intendant, préparez ce qu'est donnez-moi.
Toi, croire que ici, camp prisonnier, ici, pas camp prisonnier aliment.
Vous n'avez pas contentement monté voir ma lieutenant.
Mais au niveau de l'armée, la nourriture, évidemment, lorsque le citoyen français mangeait de la viande, ou lorsqu'il mangeait bien évidemment un bon morceau de viande ou de steak, eh bien, le tirailleur, qui n'était pas donc français, lui, n'avait droit par exemple au dessert qu'à deux morceaux de manioc et une noix de cola, alors que les autres, ils pouvaient manger des pommes.
Caporal, qu'est-ce qui se passe ici?
Ma lieutenant, moi connais pas, moi donner mancé ordinaire.
Ces tirailleurs, il y en avait peu qui étaient instruits. Ils ne comprenaient que des brides de français, c'était vraiment un français, comme on disait à l'époque, un français de tirailleurs. Et il fallait donc épouser ce personnage, épouser cette façon de parler. Il fallait apprendre à parler comme les tirailleurs. C'est vrai que c'est ce qui fait, du reste, la force du film. C'est ce côté donc vrai, même s'il y a évidemment une grande part laissée à l'imagination donc du créateur.
Vous ne voulez pas manger, ça m'est complètement égal. C'est la ration ordinaire des tirailleurs et vous n'en aurez pas plus.
Il faut dire que l'histoire en elle-même, le soubassement de cette histoire, c'est évidemment une situation réelle, partie évidemment d'une discrimination. Discrimination simplement parce que la promesse qui avait été faite à ces tirailleurs qui n'avaient pas pu toucher la solde globalement pendant qu'ils étaient au front, on leur avait promis donc de les payer une fois à Dakar. Une fois à Dakar, la première discrimination, c'est qu'on avait voulu les spolier, véritablement, et ce qu'ils n'ont pas du tout accepté. Mais il faut dire que lorsque l'on fait la relation, avec toutes les inflexions que les Africains ont eu à subir dans l'histoire de l'Afrique, je veux parler d'abord de l'esclavagisme. Eh bien, il y a toujours, toujours, évidemment, cette discrimination qui revient à chaque fois. Parce qu'on n'a jamais pu résoudre les problèmes qui sont liés donc au traitement d'individus d'égal à égal. Donc, et ça, c'est la grosse difficulté qui s'est retrouvée pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Alors voilà un peu, je crois, globalement, ce qui a conduit à cette révolte, la révolte qui a débouché sur la tragédie.
Sergent-chef Diatta! Sergent-chef, demandez-leur ce qu'ils veulent.
J'ai joué le rôle du chef des tirailleurs qui était le sergent-chef Diatta.
Connaissez-vous le capitaine Tchoréré de la 53e infanterie coloniale? Un capitaine nègre. Son dernier acte d'officier français, mais nègre. Au camp de concentration de Buchenwald, les Allemands avaient rassemblé tous les prisonniers, officiers et hommes de troupes. Les officiers blancs de côté, les hommes de troupes blancs de côté, et tous les nègres de l'autre. Le capitaine Tchoréré, noir comme du charbon, a traversé tout le champ et est venu rejoindre les officiers blancs, car c'était un officier. L'officier allemand responsable du camp lui intima l'ordre de se désolidariser des officiers blancs. Le capitaine Tchoréré refusa. Séance tenante, il fut fusillé devant les officiers blancs. Et aucun, oui, aucun de ces officiers n'eut eu le courage de protester, ni même celui de murmurer. Ce sont quelques tirailleurs qui, au risque de leur vie, ont enterré le capitaine Tchoréré dans l'anonymat et sans drapeau.
Ibrahima Sané est un ancien journaliste, aujourd'hui député à l'Assemblée nationale. Dans le film « Camp de Tiaroy », il incarne la figure du leader des tirailleurs, un intellectuel épris de justice.
Alors, le sergent-chef Diatta était un personnage charnière entre les Européens qui étaient l'armée française et les tirailleurs qui étaient donc les soldats africains. Et ce personnage, étant instruit, ayant une épouse française, avait des valeurs occidentales, était un peu occidentalisé. Mais il était également africain parce qu'il avait encore ses racines ici, avait des parents. Donc c'est lui qui, entre les deux, va à un moment donné basculer, parce que emporté par la détermination des tirailleurs, et puis aller avec la rébellion des tirailleurs qui a mené au massacre que l'on connaît.
Ma chérie, je suis avec toi. Pour être mieux avec toi et être ensemble, j'écoute l'Adagio d'Albioni, notre morceau préféré. Depuis notre arrivée, nous sommes installés au camp de transit de Tiaroy. Je t'enverrai de l'argent dès que nous serons en possession de notre pécule, afin que Guissom et toi, vous puissiez faire face à l'hiver qui s'annonce.
Toutefois, il sera moins rude que les quatre derniers hivers passés sous la botte de l'occupant nazi. Recouvrer sa liberté réchauffe le cœur.
Ibrahim Atioub.
Quand ils sont rapatriés, ces anciens prisonniers réclament un certain nombre de choses à la France. En particulier, le paiement de leur prime de captivité, leur solde de guerre, d'être correctement habillés, de recevoir leur décoration due. Un ensemble de revendications, la transformation de leur franc en franc de la colonie, tout cela pose un sérieux problème à l'autorité coloniale. Ils reviennent de la guerre, auréolés de la gloire d'avoir participé à la défense de la France, et on sait bien que le monde est en train de basculer et que plus rien ne sera comme avant. La colonisation d'anciens régimes est condamnée à mort. Mais les tenants du régime colonial, sur le coup, ne s'en rendent pas compte. Ou au moins, s'ils s'en rendent compte, ils prennent des mesures pour empêcher toute contamination de cette volonté de libération et de cette fierté retrouvée, que ça contamine la population encore sous domination coloniale. Il y a une réelle crainte des combattants revenus de la guerre.
Nous avons droit à la prime de démobilisation, aux indemnités, aux pécules, au rappel du solde de guerre. Nos collègues français qui étaient avec nous et qui ont partagé avec nous les geôles allemandes sont venus à Morlaix dans le Finistère pour nous le confirmer. Nous les croyons. Devons-nous penser qu'il y a deux Frances, la métropole et la coloniale? Voulez-vous que je vous parle des collaborateurs français de la Gestapo?
L'administration coloniale restée sur place, qui très souvent même avait soutenu le régime de Vichy, parce que Dakar n'a pas rallié très tôt la résistance. Dakar a été vichyste sous le gouverneur Boisson. Donc cette administration-là a beaucoup de craintes. Et ça va de l'administration civile à l'administration militaire.
La réponse à la révolte des tirailleurs a été qualifiée de répression sanglante par François Hollande. Mais pendant des décennies, Thiaroy a été présenté comme une mutinerie et une rébellion armée d'ex-prisonniers de guerre, ayant nécessité une riposte armée des troupes coloniales. Mais ce déni de la réalité n'a jamais empêché les historiens d'établir les faits, ce que rappelle Ibrahim Atioub.
À Thiaroy, les termes utilisés sont très nombreux. Les uns parlent de tuerie, de massacre, la mémoire coloniale parle de mutinerie. Mais ce qui reste constant, c'est qu'ils avaient des droits qui ont été foulés aux pieds. Ils avaient des revendications reconnues par l'administration coloniale qui leur devait leur solde de guerre, qui leur devait leur prime de captivité, qui leur devait des décorations et qui n'a pas fait le nécessaire. Et ils se sont révoltés contre cette situation en réclamant leurs droits. Et la réponse a été de faire donner la troupe sur eux avec mitraillette. Et ils ont été fauchés. Il y a eu un nombre de morts très important.
Prisonnier noir! Oui, je dis bien, prisonnier français.
La marche du monde est à Dakar, sur les traces des tirailleurs africains massacrés au camp militaire de Thiaroy. Un reportage de Binta Diagne à retrouver juste après les infos sur RFI.
Est-ce donc vrai que la France n'est plus la France? Est-ce donc vrai que l'ennemi lui a dérobé son visage? Est-ce vrai que la haine des banquiers a acheté ses bras d'acier? Et votre sang n'a-t-il pas ablué la nation oublieuse de sa missionnaire? Dites, votre sang ne s'est-il mêlé au sang lustral de ses martyrs? Vos funérailles seront-elles celles de la Vierge Espérance? Prisonnier noir, oui, je dis bien. Prisonnier français.
Le concours RTL Trace Music Star.
La marche du monde.
Prisonnier noir, oui, je dis bien. Prisonnier français. Bien, prisonnier français. Sans, oh sans. sang noir de mes frères. Vous tachez l'innocence de mes draps. Vous êtes la sueur où baigne mon angoisse. Vous êtes la souffrance qui enroue ma voix. Oui, 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 entendez ma voix aveugle. Génie sourmier de la nuit, pluie de sang rouge sauterelle. Et mon cœur crie à l'azur et à la merci. Tchareyo, tchareyo ma, tchareyo baba, tchareyo.
Tcharoy, il faut dire que Tcharoy est resté dans la mémoire collective des Sénégalais et des Africains. J'en veux pour preuve qu'on retrouve la trace de Tcharoy dans la musique, dans le théâtre, dans la poésie, dans le cinéma, dans la littérature de façon globale. L'intérêt est toujours là, parce que tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, ce sera toujours d'un intérêt certain.
À Tcharoy, camp militaire de transit, les tirailleurs se sont révoltés, humiliés par une armée coloniale incapable de régler le paiement de leurs soldes. Ex-prisonniers des Allemands, ils font partie du premier contingent à être rapatriés en Afrique occidentale française. Désarmés, les tirailleurs africains ont néanmoins malmené le général Dagnan, venu en personne leur rappeler les règles de la discipline militaire. C'était le 28 novembre 1944.
Vous savez que l'armée, c'est la discipline. L'obéissance à ses supérieurs. Et vous n'avez pas à faire la loi ici.
Comme le met en scène Sam Ben Ousmane dans son film Camp de Tcharoy, une nouvelle promesse du paiement imminent de leur solde va calmer les tirailleurs.
Il reste encore nos pécules, indemnités et anciennetés qu'il faut régler avant notre départ de Tcharoy.
Je ne peux rien faire ici. Il faut que j'aille à Dakar pour régler tout ça. Vous avez ma parole d'officier général.
Est-ce que vous seriez prêt à le répéter dehors devant les soldats, mon général?
Ma parole d'officier général.
Mais pour le général Dagnan, une démonstration de force s'impose et le 1er décembre 1944 au matin, plusieurs compagnies indigènes sont mobilisées pour encercler le camp de Tcharoy. Les tirailleurs sont rassemblés. Le camp est alors pacifié à coups de tir de mitrailleuses opérés par des officiers blancs.
Mon général, vos ordres ont été exécutés.
Bien. Ministre des colonies, ainsi que le gouverneur général de l'AOF, nous ont approuvé.
Quelle trace reste-t-il du massacre du 1er décembre 1944 sur l'emplacement même du camp de Tcharoy? Quelle mémoire des événements les habitants du quartier en ont-ils gardé? Écoutez le reportage de Binta Diagne à Tcharoy.
Monsieur Lo, vous êtes le directeur de l'école et votre école se trouve sur le site où à l'époque il y avait cette fameuse caserne militaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre école? Comment est-ce qu'elle a évolué dans le temps?
Bon, l'école, actuellement on dit l'école est martyr. D'abord le nom, c'est en souvenir des tirailleurs sénégalais morts en martyr au lendemain de la Seconde Guerre mondiale alors qu'ils ne faisaient que réclamer leurs droits. Ils ont été froidement assassinés et depuis lors on le considère comme des martyrs. Et dans les années 80, lorsqu'avec le ministre de l'Éducation nationale, Ibe Dertiam, on a décidé de rebaptiser le nom de certaines écoles pour leur donner le nom des héros, pour perpétuer la mémoire de nos héros disparus, que ce soit école Ladjor ou école telle ou telle. Ici, on a trouvé rien de mieux que de donner le nom aux tirailleurs sénégalais morts en martyr.
À quoi ça ressemblait ici en 1989, lorsque vous avez été muté dans cette école?
Débarqué en 1989, c'était encore le grand cas. Il n'y avait ni l'hôpital, ni le lycée, ni les CM qui sont là. Il n'y avait que cette école-là. Nous ne payions ni l'eau, ni l'électricité. Tout était pris en charge par les militaires, parce que c'était conçu pour les enfants des militaires. À un certain moment, avec l'événement de Maître Ablaye Wade, on a vu qu'il y avait du foncier dans le camp. Vraiment. Beaucoup d'hectares. Et on s'est dit que, bon, on va prendre une partie du camp qu'on va affecter aux civils. On a ici construit un grand hôpital qu'on appelle l'hôpital de Pikine. On a construit deux CEM, le CEM Martyr, le CEM Tcharoï 44. On appelle ici CEM Centre d'enseignement moyen. C'est pour nos élèves de la 6e à la 3e. On a construit ici un lycée, c'est pour les élèves de la 2e à la terminale. Donc, véritablement, on a occupé le camp maintenant. Les civils l'ont occupé. Les militaires n'occupent qu'une portion du camp maintenant. Mais bien sûr, jusqu'à présent quand même, pour faire quelque chose dans ce camp, bien que ça soit le domaine de l'éducation nationale, je ne peux pas me prévaloir de dire que, mais écoutez, monsieur le commandant, maintenant, vous dépendez des forces armées, moi je dépends de l'éducation nationale, nous n'avons rien à voir là. Non, 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 je n'ai pas ce droit-là. Jusqu'à présent, les militaires ont droit de regard sur ce qui se passe ici. Avant, ici à Dakar, c'était la forêt. Mais maintenant, le boom démographique étant, les populations venues habiter, ont dépassé depuis. Donc, les quartiers ont commencé à ceinturer le camp et on s'est dit que ce ne devait plus être une école uniquement des enfants des militaires. Mais on a ouvert ça à la population environnante.
Est-ce que les gens ici que vous côtoyez autour de l'école ont conscience de ce qui s'est passé ici en 1944?
Non, ils ont tous oublié, pas du tout. Mais les femmes des quartiers qui sont là et qui n'ont rien à faire viennent ici vendre pour tirer un peu leur épingle du jeu. Vous savez, ce quartier-là est un quartier où la proximité et la pauvreté règnent à maître. Hein. Moi, je me rappelle bien une anecdote très intéressante. Un jour, un de mes maîtres a renvoyé une fille pour cause d'absentéisme fréquent. La mère de l'enfant s'est présentée à mon bureau pour me dire que bon, je ne peux pas expliquer au maître pourquoi ma fille a été renvoyée. Je dis oui, mais explique-moi. Il me dit que vous remarquez que ma fille est absente seulement le soir. Je dis oui, pourquoi? Il me dit que parce que nous ne mangeons pas à midi et à la fin le soir. C'est véritablement triste. Mais c'est un cas parmi tant d'autres.
Voici des heures que nous marchons.
Voici des heures que nous marchons.
Prenons courage. Prenons courage.
Nous arrivons.
Au camp Tcharoï que nous aimons.
Au camp Tcharoï que nous aimons.
Voyez ces voyants tirailleurs qui marchent. Soldats marchés, voyez, ces soldats marchés.
Je m'appelle Babacar Diokh. Je viens du lycée de Tcharoï. Je viens d'avoir mon bac cette année-ci en 2014. Et j'en fais partie de la troupe théâtrale qui doit jouer la pièce sur les tirailleurs sénégalais.
Est-ce que tu connaissais l'histoire des tirailleurs ce qui est arrivé aux tirailleurs sénégalais lorsqu'ils sont arrivés à Tcharoï avant de jouer cette pièce de théâtre?
Avant de jouer cette pièce, je ne savais pas beaucoup sur l'histoire. Bon, j'entendais les gens dire que tirailleurs, et camp de Tcharoï, Tcharoï 44. Je ne savais pas quelle est réellement cette histoire. Mais lorsque j'ai joué cette pièce, j'ai réellement compris comment s'est réellement passé l'histoire et où c'est passé aussi. C'est à travers la pièce que vraiment maintenant j'ai tout compris.
C'est-à-dire à travers la pièce, est-ce que tu as dû lire des documents sur l'histoire de Tcharoï?
C'est que le problème en est que, vraiment, je ne vois pas de document qui peut me permettre d'avoir toute information que j'ai besoin. Je ne vois pas un document qui pourra me dire tout ce dont j'ai besoin sur les tirailleurs.
Qui t'a expliqué ce qui s'est passé à Tcharoï en 1944?
Bon, personnellement, ne me l'a expliqué, mais c'est à travers la pièce que je l'ai compris.
Qu'est-ce que tu ressens à l'idée d'avoir joué le rôle d'un tirailleur sénégalais qui s'est senti lésé de ne pas avoir reçu ses soldes de guerre?
Je peux dire que c'est vraiment très dur parce que nous sommes tous des êtres humains, quoi. Il n'y a pas de couleur rouge ou noire ou bleu ou blanc. On est tous des êtres humains. On doit être une et indivisible. Et aussi tout homme jouissant de ses facultés mentales est capable aussi. Et je pense que si les tirailleurs ont aidé la France jusqu'à ce que la France gagne sa guerre, donc je pense qu'ils devaient vraiment tenir leur parole, quoi. Mais au lieu de les massacrer pendant la nuit du 1er décembre, vraiment, c'est très dur. Ah, c'est très dur, sincèrement. C'est anormal.
Mansour Diop, vous êtes un habitant de Tcharoï, vous êtes un infirmier de profession. Et vous êtes aussi metteur en scène. C'est vous qui avez monté cette pièce de théâtre sur le 1er décembre 1944. D'où vous est venue l'idée de monter une pièce sur Thiaroy 44?
J'ai vu que, comme je l'ai expliqué dans la pièce, on nous enseigne la Deuxième Guerre mondiale dans tous les détails. Mais on occulte superbement cette phase qui nous concerne. Parce que moi, à l'école, je n'ai jamais appris l'histoire de Thiaroy 44.
Est-ce que ça a été difficile de leur faire comprendre ce moment-là de leur histoire?
C'était pas difficile. Hein. Je leur ai montré d'abord le film de Sembène Ousmane. Et même le film aussi les a inspirés, comment s'adapter, comment interpréter les jeux d'acteurs.
Tout se passait bien. Jusqu'au moment où le général Magnan a décidé de ne plus céder à notre légitime requête. Et reconnaissant la fierté de l'homme noir.
On nous tue, mais on ne nous déshonore pas.
Nous avions pacifiquement décidé de réclamer notre prime de guerre.
Chose normale, car nous avions défendu leur pays. Elles ont payé leur propre fils.
Mansour Diop, comment cette pièce a-t-elle été accueillie lors de vos différentes représentations? Vous l'avez présentée 2 années consécutives, un 1er décembre symboliquement. Comment est-ce qu'elle a été accueillie?
Pour la première fois, on avait ce qu'on appelle standing ovation. Le public avait vraiment apprécié. Et il y a beaucoup aussi de nos grands-pères qui étaient là-bas, les parents d'élèves. Et il y avait beaucoup de pleurs. Hein, parce qu'il y a un moment donné de la pièce, c'est vraiment triste. Surtout avec les anciens combattants qui étaient présents le jour J et les militaires qui sont là-bas dans le camp de Thiaroy. Beaucoup de personnes avaient pleuré et voilà, c'était vraiment superbe. Je n'oublierai jamais ce jour-là, mais moi aussi j'ai pleuré le jour-là. Bon, pour la première fois, j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que je ne pensais pas que ces élèves artistes allaient m'interpréter la pièce comme moi je le sentais. À un moment donné, j'ai voulu même entrer dans la pièce. Et à un moment donné, j'ai voulu même jouer avec eux. Mais je m'étais dit, bon voilà, je vais les laisser jouer. On l'a joué encore 2 fois en 2013. Et ça a cartonné encore. Tout ce que je voulais, c'est faire une tournée scolaire avec la pièce pour que tout le Sénégal cherche vraiment leur propre histoire. C'est ça que je veux, moi. Sauf que je les ai à Thiaroy et à Pékin, mais je voudrais vraiment que la pièce fait le tour du Sénégal.
Mais à quoi servent tous ces grands docteurs en histoire si dans nos écoles, notre histoire n'y est pas enseignée? Car il ne sert à rien de commémorer cette journée si mal connue des jeunes. Il faut faire des recherches et des fouilles pour la connaître. On enseigne la Seconde Guerre mondiale dans tous ses détails. Et on occulte superbement cette phase qui nous concerne. Nous avons peur de dire la vérité? À quoi ressemble donc cette indépendance?
Aujourd'hui, on parle très peu de ce qui s'est passé le 1er décembre 1944 à Thiaroy. Et sur place, à Thiaroy même, dans ton quartier, il y a très peu de traces visibles pour se rappeler de cet événement-là. Est-ce que tu ne regrettes pas ce vide?
Oui, vraiment. C'est anormal le fait de ne pas en parler. Parce que nous, on est à Thiaroy et on vit là-bas. On est né là-bas. Et aussi, vraiment, l'histoire s'est passée là-bas et on devait en parler toujours. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire tirailleur ou quelque chose du genre. Je ne l'ai jamais entendu. Seulement le cimetière qui est là-bas. Mais c'est un soi-disant cimetière. Il n'y a aucun tirailleur là-bas. C'est seulement un soi-disant cimetière qu'on a mis là-bas et on dit c'est là que reposent les tirailleurs. Mais selon moi, ce n'est pas vrai.
Pourquoi dis-tu qu'il n'y a aucun tirailleur là-bas?
D'après l'histoire, ils ont été enterrés dans des fosses perdues. Quoi. On ne les a pas retrouvés.
Combien de tirailleurs africains ont été massacrés à Thiaroy le 1er décembre 1944? Combien sont tombés sous les tirs des mitrailleuses? Combien ont succombé à leurs blessures et où sont leurs corps? Les tirailleurs ont-ils été enterrés sur les lieux mêmes du camp militaire ou bien sont-ils au cimetière de Thiaroy?
Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est des murs de clôture, un bâtiment au milieu et à l'intérieur, il y a un ensemble de tombes réparties en 3 lots. Il semble que ce soit des tombes de tirailleurs de cette aube de sang de Thiaroy. Vérification à faire sur la question, bien entendu, au regard de ce que les historiens vont dire et ce que les archives vont dire.
Cher Fetifay, toutes les tombes qu'on voit devant nous sont toutes blanches. Il n'y a aucune inscription, aucun nom. Comment cela se fait-il?
Dans la pratique, effectivement, on constate qu'il n'y a aucun nom. Toutes les tombes sont bien blanchies, avec des coquillages au-dessus. Dans les fêtes, il n'y a rien qui puisse dire qu'il s'agisse là de la tombe de tel ou de la tombe de tel. C'est des tombes qui sont anonymes. Est-ce qu'il y a des personnes à l'intérieur? Il y a même là une grande question d'histoire. Ce qui est certain, c'est que quel que soit ce que les archives vont nous dire sur la question, c'est qu'ils ont été enterrés dans une fosse commune. Comment on a pu faire pour que ce soit des tombes? Je crois qu'il y a là des interrogations historiques sur lesquelles il faudra apporter des réponses.
Donc aujourd'hui, la communauté scientifique se pose encore toujours autant de questions?
Absolument autant de questions, parce que dans le contexte de l'époque, par rapport aux événements du camp militaire de Tiaroy en ce 1er décembre 1944, ni l'armée française ni les autorités coloniales, aucune d'elles n'avait intérêt à ce que ce qui s'est passé exactement soit connu. Où est-ce qu'ils sont enterrés? Est-ce que c'est à l'intérieur du camp, comme beaucoup d'historiens l'affirment, ou bien est-ce que c'est là où nous sommes aujourd'hui? Est-ce que c'est là où ils sont en fosse commune?
L'autre interrogation, c'est sur le nombre de victimes. Officiellement, on dit qu'il y a eu 35 morts. Ici, ce qu'on voit, ce qu'on a compté, c'est 202 tombes.
202 tombes, exactement. 202 tombes bien alignées. Évidemment, les archives militaires françaises nous disent qu'il y a 35 morts. Alors, de 35 morts, comment on va se retrouver avec 202 tombes? Il y a là une interrogation historique. Or, ce qui est certain, c'est que ça, ce n'était pas un cimetière. Et donc, depuis quand on a commencé à en faire un cimetière, pour quelles raisons on a commencé à en faire un cimetière, il n'y a jamais eu de fouilles. Je crois que c'est l'interrogation forte que nous posons. Est-ce qu'ils sont là où nous nous trouvons, ou est-ce qu'ils sont à l'intérieur du camp? Il faut avoir la preuve. Et la preuve, peut-être les archives vont nous éclairer, les archives que la France doit rapatrier. Peut-être aussi, si demain il devait y avoir des initiatives dans le sens de fouilles archéologiques, peut-être qu'on saurait un peu quelle est la vérité. Mais au moment où on parle, véritablement, il n'y a pas une vérité absolue autour de ces victimes de Tiaroy.
Vous savez, c'est un problème d'histoire. Chacun a sa façon de voir. Chacun a sa façon de voir. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de revivifier cette catastrophe, ce massacre des terres sénégalais.
C'est en 1972 que le chanteur Ouza a créé ce morceau, Tiaroy, à partir du poème de Senghor.
J'ai rendu hommage, parce que j'étais tellement enfant. Je veux dire, ces grands hommes qui ont servi sont tombés des victimes. Victime des Allemands et victime des Français. J'ai dit Gaïu Bahanga Tiaroyo. Ça veut dire que les grands hommes se reposent là-bas.
Vous écoutez RFI, la marche du monde. Valérie Nivelon.
70 ans après le massacre des tirailleurs à Tiaroy, si les faits sont établis, de nombreuses questions restent sans réponse. Nous retrouvons Ibrahim Atioub, recteur de l'Université de Dakar. Il revient sur la nécessaire indépendance de la recherche historique sur l'histoire douloureuse de Tiaroy.
Aujourd'hui, on est dans une sorte d'impasse. L'impasse vient souvent de la confusion entre justement ce discours mémoriel et discours historien. Au niveau de la mémoire, on est ici dans un affrontement entre une mémoire coloniale et une mémoire nationaliste et africaine. Cette mémoire africaine a été célébrée par les poètes, Léopold Sédar Senghor, par les cinéastes Sembène Ousmane, par les peintres, artistes, les rappeurs ont célébré cette mémoire. Elle est très importante à rappeler. La revendication de la réhabilitation des tirailleurs qui sont morts, qu'on a accusés d'avoir pris des armes, d'avoir organisé une mutinerie. tout ça n'est pas historiquement entièrement établi. Tant qu'on n'a pas l'ensemble de la documentation, il est difficile de l'établir. Ce qui reste pourtant possible pour les historiens, c'est même avec les sources incomplètes dont ils disposent, en réinterrogeant le contexte, il est possible de connaître quelles sont les tendances lourdes de cette histoire, parce qu'on connaît très bien le contexte, on connaît très bien quelle est la mentalité de l'administration coloniale à l'époque. Donc, il est possible de mener une réflexion historienne, y compris en situation d'incomplétude des sources. Et même quand ces sources sont mensongères, falsifiées, les historiens doivent expliquer quel est le ressort qui pousse à la falsification ou à l'introduction de documents falsifiés. C'est ça le travail de l'historien, c'est d'être capable d'utiliser toutes les sources, y compris les sources falsifiées, pour rétablir la réalité historique et donner un sens.
Mamadou Koné, conseiller scientifique du Musée des Forces Armées, rappelle pour sa part que seuls les historiens français, et particulièrement Armel Mabon, ont pu avoir accès aux archives de Tiaroy.
Il faut dire également qu'il y a des historiens français qui sont en avance sur les historiens sénégalais parce que tout simplement étant à proximité de ces archives, et Armel Mabon par exemple a découvert que là où on parlait de 35 morts officiellement, en réalité il y en a eu 70 pour le moment. Donc ce chiffre peut être revu à la hausse, mais Armel Mabon s'appuie sur un rapport signé de la main du général Dagnan, qui était le commandant d'appui de la place de Dakar et de la Mauritanie, donc du Sénégal et de la Mauritanie, et qui indique dans ce rapport qu'il y a eu 24 tués, 46 blessés et aucun blessé n'a survécu. Cela fait au total 70 morts. Mais ça, c'est au minimum, parce que quand même, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. On va éplucher les archives, mais quand des gens ont été surpris, des gens qui ne s'y attendaient pas, ont été attaqués avec des armes extrêmement puissantes, des armes lourdes. Évidemment, il a dû se passer un massacre qui ne dit pas son nom.
Ceux qui sont tombés à Tiaroy, non seulement la mémoire coloniale les a chargés négativement, les a condamnés, les survivants ont été traduits devant les tribunaux, condamnés, et ils ont été par la suite amnistiés. Il est aujourd'hui possible, en disposant de l'ensemble des archives promises par le président Hollande, nous espérons que nous les aurons, de revoir cette histoire et de donner les moyens aux mémorialistes, aux politiques, à tous ceux qui sont les descendants de ces soldats tués à Tiaroy, certainement de les réhabiliter et de pouvoir revenir sur le procès qui a été fait à ces soldats.
Aujourd'hui, nous pouvons nous estimer heureux. Nous avons obtenu gain de cause partiellement, puisque d'abord, les archives sont déclassées, donc désormais accessibles. Les archives numérisées de Tiaroy. Ensuite, de plus en plus, Sénégalais et Français, côte à côte, sont en train de réhabiliter cette mémoire, la mémoire de ces victimes. La preuve, c'est que la France a financé la restauration du cimetière de Tiaroy, où, il faut le dire, il y avait déjà un début de restauration et surtout la construction d'un mémorial par l'État sénégalais. Mais la France est venue en appoint pour construire un logement pour le gardien et également procéder à la restauration des tombes, et au montage d'une exposition. Toutes choses qui participent évidemment de la réhabilitation de cette mémoire qui a été spoliée.
Quand vous regardez le choix de la date de la journée du tirailleur au Sénégal, je crois que c'est le 23 août, qui commémore une date importante, mais une date importante surtout pour la France parce que c'est le débarquement de Provence. Pour les Africains, le 1er décembre est beaucoup plus significatif. De mon point de vue, c'est cela qui prend le plus compte de la mémoire africaine de ce qui s'est passé à Tiaroy. En tout cas, la mémoire des tirailleurs est plus vécue en Afrique en rapport avec le 1er décembre qu'en rapport avec le 23 août. Et de part et d'autre, on peut avoir des relations vraiment apaisées sur ce passé. Ni l'administration française, civile ou militaire, n'a à prendre sur elle ce qui a été fait en 1944. c'est le passé. On peut l'assumer sans risque que cela déteigne sur les relations entre le Sénégal et la France. Du côté des Africains également, prendre en compte l'ensemble de l'histoire des tirailleurs qui ne se réduit pas à Tiaré, en étudiant ce passé, qui est un passé commun, en expliquant et en donnant un sens à ce passé-là, on aide les vivants à se réconcilier.
Tiaroy 44, le massacre des tirailleurs africains, c'était une enquête et un reportage de Binta Diagne réalisé par Cécile Pompeani. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et autres témoignages sur la page Facebook de La Marche du Monde. Podcastez cette émission, c'est la vôtre.
Non, vous n'êtes pas mort gratuit. Vous êtes les témoins de l'Afrique immortelle. Vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain. Dormez, dormez, dormez de mort, et que ma voix vous berce.